Dans un autre arrêté ministériel signé mardi 19 juillet dernier, le ministre national de l'économie annonce que l'interdiction d'importer le ciment gris, les barres de fer et le sucre est maintenue pour 3 mois renouvelables, mais ne concernera que la partie ouest du pays. Cette mesure, qui rectifie celle du 8 juillet dernier, continue à susciter des réactions négatives dans l'opinion. Entre-temps, sur le marché à Kinshasa, par exemple, le sac de ciment gris de 50 kg se vend à 15 000 francs contre 9 000. À Matadi, le prix a carrément triplé, passant de 5 000 à 15 000 francs. 15 000 francs, c'est aussi le prix du sac de ciment vendu à Lubumbashi contre 7 500. Quelle lecture faire de cette nouvelle mesure? Comme invité, nous vous avions annoncé Jean-Marie Kalumba, conseiller en charge de la régulation économique et approvisionnement intérieur au ministère de l'économie nationale. Malheureusement, il s'est désisté. À sa place, nous avons plutôt Israël Moutala. Bonsoir Israël.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation alors que nous vous avons pris à pied levé. Vous êtes analyste économique et politique. Al-Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes analyste économique et stratège. Jean-Luc Bekama, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes deuxième vice-président de la FEC Congo Central, également coordonnateur de l'entreprise GECOTRANS et président du comité professionnel des agences en douane du Congo Central. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Par un autre arrêté ministériel signé mardi 19 juillet dernier, le ministre de l'économie allège sa décision. Modeste Bahati annonce que l'interdiction d'importer le ciment gris, les barres de fer et le sucre est maintenue pour 3 mois renouvelables, mais ne concernera que la partie ouest du pays. Cette mesure rectificative accorde tout de même une dérogation aux importations en cours, à condition qu'elles soient dûment signalées au ministère de l'économie. Comment s'est comporté le marché de ces produits entre le 8 et le 19 juillet? C'est ce que nous dit Daniel Tambinzoni.
La première décision du ministre de l'économie, celle du 8 juillet, a suscité de vives réactions dans quasiment toutes les provinces du pays. D'un côté, la Fédération des entreprises du Congo et de l'autre, la société civile et les ménages en chantier. Ce qui a plus dérangé, c'est la spéculation que cette décision du ministre a provoquée sur le prix du ciment gris. À Kinshasa, par exemple, et depuis le samedi dernier, le sac de 50 kilos se vend à 15 000 francs congolais contre 9 800, 10 000 francs avant cette décision. À Matadi, le prix a carrément triplé, passant de 5 000 francs congolais à 15 000 francs. 15 000 francs, c'est aussi le prix du sac de ciment vendu à Lubumbashi contre 7 500 francs avant cette mesure. À Goma et à Lubumbashi, nous avons également enregistré des plaintes par rapport au prix du sucre. La FEC a réuni ses membres lundi à son siège de Kinshasa et a qualifié cette décision d'inadéquate et d'improductive. Les sections FEC de l'Ituri, du Grand Katanga, bref, de toute la partie est du pays, ont demandé au ministre de l'économie de revoir sa décision qui ne cadrait pas avec la réalité de leur milieu.
Au poste frontalier de Loufou dans la province du Congo central, plus de 120 véhicules de ciment qui étaient bloqués côté congolais et plus de 500 véhicules du côté angolais ont été autorisés à entrer sur le sol congolais. Jacques Mbadou, le gouverneur du Congo central, précise que cette décision a été prise après des échanges avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Jacques Mbadou Sitou a pris cette mesure afin, dit-il, de décongestionner les postes frontaliers tels que celui de Loufou où des fortes tensions ont été signalées depuis la mesure gouvernementale interdisant l'entrée du ciment gris en RDC pendant 3 mois. On l'écoute au micro de Guy Roger Nyampala.
Tous les véhicules qui sont ici, qui ont déjà payé les droits, doivent être libérés tout de suite. Parce qu'ils ont déjà tout payé. Il n'y a pas de raison de les bloquer. Les autres importateurs qui n'ont pas encore commencé les formalités doivent remplir les formalités conformément aux textes légaux, en payant aussi la taxe provinciale que la DGDA va collecter pour les portes de la province. Ça ne va pas s'arrêter ici. Puisqu'il faut aussi décongestionner de l'autre côté, ben, je l'ai redit, même ces véhicules qui sont là-bas peuvent passer, payer les droits des douanes et puis de telle manière que la situation soit apaisée en attendant qu'on puisse prendre des mesures qui viendront plus tard. Mais pour le moment, nous sommes venus apporter la paix. Mais on apporte la paix sans pour autant venir dire, voilà, faites ce que vous voulez, allez-y. Non, payez à l'État ce qui est dû à l'État. Parce que nous ne sommes pas prêts à détruire encore ces loups, ni les deux nouvelles sociétés qui vont être inaugurées d'ici là.
Voilà, Jean-Luc Bekama, vous êtes deuxième vice-président de la FEC Congo Central, également coordonnateur de l'entreprise GECOTRANS et président du comité professionnel des agences en douane du Congo Central. Comment vous analysez cette nouvelle mesure du ministre de l'économie nationale?
Merci beaucoup. Je crois que ce que nous relevons, c'est que il n'est pas normal qu'une décision qui émane de le ministère ayant la gestion de l'économie nationale dans ses attributions puisse prendre une mesure qui finalement entraîne la spéculation. Tout simplement parce que nous osons croire qu'une telle mesure, pour qu'elle soit sanitaire, tant pour les importations que pour la sauvegarde des industries locales, il aurait fallu qu'il y ait évidemment en amont une concertation. Une concertation apaisée, une concertation qui permettait à ce qu'on se rende effectivement compte qu'une interdiction, qu'est-ce que cela devait en principe entraîner. Cette interdiction brusque qui s'est aujourd'hui, on sent qu'effectivement le ministre a encore pris un deuxième arrêté rectificatif, et nous osons croire qu'il prendra un troisième arrêté, c'est qu'il n'y a pas eu, au départ, la décision n'a pas été correctement mûrie. Et aujourd'hui, il y a effectivement ces dérapages. Vous comprenez que, tant pour la population que pour les opérateurs économiques qui étaient déjà engagés dans le processus, ça fait de la perturbation. Donc, nous croyons que, au niveau du ministère de l'économie, c'est une mesure qui a été prise, mais pour laquelle on n'avait pas, au départ, envisagé les mesures d'encadrement qui permettaient à ce qu'on ne puisse pas arriver à ce que nous observons aujourd'hui. Vous savez que lorsqu'on passe du simple au triple ou du simple au quadruple, c'est qu'il y a bouleversement de tous les calculs et de tout ce qui s'ensuit. Donc moi je crois que la mesure, elle n'a pas été très bien mûrie et que, raison pour laquelle aujourd'hui nous observons qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des désapprobations, et qu'il y ait un certain nombre de dérèglements.
Alors, Jean-Luc Bekama, après sa rencontre avec les producteurs locaux et les importateurs, le ministre de l'économie, Modeste Bahati, a affirmé que cette hausse du prix du ciment gris relevait de la spéculation et qu'elle ne se justifiait pas. Comment vous comprenez cette affirmation?
Non, mais parce que le problème, c'est quoi? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, là. En principe, le problème de la protection de l'industrie locale, c'est un problème pour lequel, au niveau de l'AFEC, nous nous sommes toujours battus. Mais les problèmes ne se situent, la solution à ces problèmes ne se situe pas forcément du point de vue de la concurrence de l'OIAM. Il y a également le problème de la fiscalité pesante sur l'industrie locale. De ce côté-là, le ministre devrait également froidement examiner la chose. Et si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là, la spéculation vient quand? La spéculation vient lorsqu'on ne met pas en place au préalable des mesures d'encadrement. Il s'agit de ça. Donc lorsque le ministre avait annoncé cette mesure-là, le ministre n'avait pas pris en compte que tout ce qui était en cours, il n'avait pas pris en compte que notamment sur la frontière, il y avait déjà des importations en cours. Au port de Matadi, il y avait déjà des importations en cours. Et que la première mesure aurait dû déjà positionner cet aspect de choses de façon à ce que l'on sache exactement de quelle manière les choses allaient se passer.
Alors, la Fédération des entreprises du Congo, FEC et le ministre de l'économie ont convenu hier mercredi de fixer à 12,5 $ américains le prix du sac du ciment gris de 50 kilos au détail. N'est-ce pas déjà un début de solution pour décrisper cette situation?
Bon, ben, vous savez, ça c'est un débat assez compliqué parce qu'en réalité, si nous prenons, parce qu'en fait, notamment pour nous de la province du Congo central, nous avons des entrées par où le ciment passe. Nous avons le ciment qui vient par importation et qui entre par la voie maritime, et nous avons le ciment qui vient des industries angolaises. Ça ne peut pas être la même chose. Le ciment qui vient de la Chine ou de la Turquie, ces ciments-là, ils ont un taux de fret ainsi que des droits de douane qui leur sont applicables, qui dont le ciment, en logiquement, ne peut pas être vendu à moins de 10 dollars. Mais par contre, les ciments qui sont produits en Angola, dont nous savons clairement que le FOB, enfin, le prix à la production est de 2 dollars, il est normal qu'à la frontière, que le prix de ciment puisse effectivement arriver à moins de 5 dollars. Donc, tout ça, ce sont des éléments auxquels nous devions préalablement, le ministère de l'économie devait préalablement discuter et voir quelle était la faisabilité et où se trouvait en fait la bonne solution où il devait prendre comme résolution. Donc, aujourd'hui, on a fixé ces ciments-là à 12 500 dollars de sac. Bon, mais bon, nous prenons cette mesure de cette manière-là, mais en réalité, par rapport à la structure des prix, je ne sais pas comment le ministère de l'économie va s'y prendre.
Merci. Merci Jean-Luc Bekama et Israël Moutala. Vous êtes analyste économique et politique. Comment vous analysez, vous, cette nouvelle mesure du ministre de l'économie?
Bon, cette mesure, je l'ai trouvée, moi également, pas suffisamment mûrie. Parce que connaissant justement l'état du marché congolais, la mesure a plus apporté un trouble plutôt que de l'apaisement. Les agents économiques, les opérateurs économiques en général, les consommateurs du ciment ont besoin de stabilité, ont besoin de lisibilité, et cette mesure, l'arrêté du ministre Bahati, n'a pas contribué justement à la calmie sur le marché, mais plutôt à la surchauffe. La raison de justement à l'appui de mes propos, son arrêté a été justement plus ou moins rapporté, parce qu'il en a fait un autre 10 jours après, il a pris un autre arrêté pour dire que c'était une mesure temporaire et tout ça. Mais avant de la prendre,
Jean-Luc Bekama a dit espérer qu'il pourrait y avoir un troisième qui viendrait, je pense, à carrément abroger les précédents.
Bien sûr, moi je comprends parfaitement le besoin, le souci du ministre justement de protéger l'industrie locale. Mais comme on l'avait dit, il fallait une concertation préalable avec les opérateurs économiques. Il y a un cadre qui existe de coopération entre le gouvernement et les opérateurs économiques qu'on appelle, je crois, le CPCE, le cadre permanent de conservation économique. Donc la structure devait justement réfléchir à comment protéger l'industrie locale. Mais l'industrie locale, on ne doit pas la protéger à n'importe quel prix. C'est à elle d'être compétitive. C'est à elle de réduire ses coûts. Mais si elle ne fait pas ce travail sur elle-même, elle ne va pas imposer aux consommateurs congolais un prix du ciment prohibitif. Soyons sérieux. Donc comment les Français, les Égyptiens, les Américains qui ont un pouvoir d'achat élevé que les Congolais peuvent acheter un sac de ciment à moins cher, à moins de 5 dollars, alors que les Congolais, qui sont plus pauvres que ces nations là-bas, achètent le ciment à plus de 20 dollars à une certaine époque, à 50 dollars dans certaines contrées, et maintenant on veut nous ramener à un prix de 12,5. Non, c'est pas une mesure qui va dans l'apaisement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il fallait que le ministre quantifie les besoins. Les besoins en ciment sont colossaux, justement. Et l'offre locale ne peut pas satisfaire ces besoins-là. Je crois qu'il y a une étude qui a dit que, à peu près, pour la zone ouest ici, qui nous concerne, on a besoin d'à peu près 3 millions de tonnes par an. Mais la silo qu'on veut protéger aujourd'hui n'est même pas capable de produire aujourd'hui 400 000 tonnes de ciment par an. Elle a des difficultés, elle n'avait pas fait les investissements à temps. Et donc aujourd'hui son ciment, il n'est pas compétitif par rapport aux autres. Donc au gouvernement d'appuyer la silo pour qu'elle devienne compétitive. Mais j'aimerais dire aussi qu'il y a un autre aspect qu'il faut comprendre ici. Que derrière le prix du ciment se cache un droit fondamental. Le droit de l'homme, le droit à l'habitat, notamment. Donc les Congolais veulent justement construire un habitat salubre, un habitat décent. Mais pour ça, il faut que les matériaux coûtent cher, et notamment le ciment qui est un produit de base.
Ce soit à la portée de tous.
Tout à fait. Mais alors, quand tu es ministre de l'économie, tu te dis, voilà, ici, mon pays, pour la zone ouest, ne produit actuellement que à peu près 300 000 ou 200 000 tonnes de ciment par an. Les besoins sont de 3 millions. L'autre, comment je fais le gap, j'autorise l'importation. Tu autorises pour 3 millions ou pour 2 600 000 pour couvrir le gap. Mais le problème est que, justement, le ministère de l'économie n'a pas l'administration pour contrôler les importations frauduleuses. Mais c'est pas parce que son administration est faible qu'il doit justement pénaliser toute l'industrie.
Alors, parlons de ce souci du ministre de l'économie, celui de protéger l'industrie locale, un souci légitime, Israël Motala. Selon vous, quels sont les préalables pour qu'on y arrive?
Non, les préalables, c'est ce que je dis. La Silou, par exemple, qui est une entreprise qui n'a pas fait les investissements qu'il fallait, ses outils, ses machines sont obsolètes. Elles sont énergivores, elles consomment beaucoup d'énergie, et voilà.
Moderniser l'outil de production.
Il faut que le gouvernement puisse justement disponibiliser le courant électrique à un coût moins onéreux. Donc, le gouvernement doit réduire certaines taxes et tout ça, pour que le ciment de Silou soit autant compétitif que celui, par exemple, de l'Angola. Et donc, si on n'arrive pas à ça, le marché sera perturbé, parce que les gens seront toujours amenés à acheter là où c'est moins cher. Et donc, il y a des décisions à prendre sur le court terme ici, c'est de permettre d'abord aux Congolais, justement, d'assouvir leurs besoins en ciment. Et là, c'est une décision importante que de faire, c'est ce qu'on a fait, de faire du contingentement. Ça a été fait justement, c'est sous le ministre de l'économie Fouta qu'on avait justement pris la décision d'ouvrir les frontières pour importer le ciment, parce qu'on ne l'importait pas. Sinon, c'est pour la partie, pour la zone ouest.
Merci Israël Moutala. Al-Kitenge, vous êtes analyste économique et stratège. Quelle est votre analyse à vous?
Merci beaucoup Alain, et je me réjouis de pouvoir parler après mes deux co-débatteurs, et je voudrais simplement attirer l'attention de ceux qui nous écoutent et votre attention particulière sur le fait que il y a un indicateur fondamental qu'il faut regarder. C'est le mapping du prix du ciment sur toute l'étendue de la République. En périphérie, le prix est bas. Plus on entre sur le territoire, plus le prix est élevé. Je vais vous donner des indicateurs. On disait tout à l'heure qu'à Matadi, le ciment était à 5000 et on disait qu'il était à 7500 à Lubumbashi. En Mbujimayi, il est à $50, monsieur. Et à Tchoumbé, il est à $65. Plus vous pénétrez dans sur le territoire congolais, plus le prix est complètement intenable. Dans tous les pays du monde qui veulent agir sur la brique, ça veut dire en fait sur les travaux de construction, et qui veut se moderniser et qui veut engager des chantiers de l'habitat et de l'habitat décent, le ciment est porté à ce qu'on appelle le stade stratégique. Ça veut dire qu'en fait, la République prend la responsabilité de l'acheminer partout où on a besoin d'établir des habitats de qualité. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur quelque chose de très important. Nous sommes ici dans une situation extrêmement cacophonique. Un ministre de l'économie qui raconte quelque chose de soi-disant concerté au niveau du gouvernement, et on a un gouverneur qui est censé être une entité inférieure qui fait tout à fait rien qu'à sa tête.
Un télescopage.
Horrible. Je n'ai jamais vu ça en matière de gestion publique. Et pour bien faire, il ne se réfère même pas au ministre de l'économie, il se réfère à sa tutelle administrative, donc
au
vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et il y a quelque chose de vicieux dedans. Il faut savoir qu'en matière de hiérarchie, le vice-premier ministre est supérieur au ministre de l'économie. Mais il n'est pas dans son élément vertical. Ce genre de choses au niveau de la gestion de l'État, ça fait mal au cœur et ça fait réfléchir. Et ça nous interroge sur où est-ce que nous sommes et de quelle manière nous sommes gérés. Et je pense que là-dessus, il est important que les gens fassent un petit peu attention et qu'ils se rendent compte que les Congolais les regardent, les observent et se posent des questions sur la manière dont ils sont gérés. Moi, j'ai entendu un opérateur économique dont l'usine de production de ciment n'a même pas encore commencé à produire, nous dire de manière assez claire que sur la structure de prix du ciment, il y a 52 taxes. À un moment donné ou à un autre, il faut savoir ce que l'on veut et où est-ce qu'on désire prélever. Et s'il est vrai qu'il y a 52 taxes qui sont appliquées aux entreprises qui produisent du ciment, il est important qu'avant de faire quoi que ce soit, le ministère de l'économie assainisse le secteur et que l'on se dise exactement ce que l'on désire faire. Je voudrais vous dire une chose. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a un gros défaut. C'est celui de ne pas lire les temps. Nous en sommes à une période où l'Angola, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a perdu une grande partie de ses revenus, y compris en dollars. Et l'Angola a décidé de prélever ses dollars en République démocratique du Congo en nous envoyant énormément de produits. Et il a trouvé un des produits, c'est trouvant les ciments. Même si cela veut dire faire du dumping, simplement parce que la monnaie angolaise perd de la valeur, ils s'en foutent énormément. Ils sont dans deux exercices particuliers. Un, celui de vente. Deux, celui de la balance commerciale. Et là-dessus, il faut comprendre que l'Angola se défend avec les armes qui sont entre ses mains. Je pense qu'il faut interroger deux choses. La première, c'est la structure de prix du ciment. J'ai entendu quelqu'un se tromper royalement en parlant de la Chine et de l'Angola. Non, le prix CIF arrivé Matadi est de 4 dollars du ciment qui vient de Chine ou de Turquie. Ça sous-entend qu'en fait, le ciment a été produit à un coût, il a été transporté jusqu'ici, et il peut donc encore nous arriver à nos frontières à 4 dollars. Mais comment expliquer que nous, ici, nous soyons incapables de produire du ciment avec un même degré de compétitivité que les gens qui nous envoient du ciment à travers le monde? Il est important qu'on s'interroge sur cette question. Et si vous regardez ça de très près, je peux vous garantir qu'il y a des choses extrêmement anormales là-dedans.
Al-Kitenge, vous avez dit que pour les pays qui veulent se moderniser, ils font tout pour que le ciment arrive dans tous les coins et recoins du pays. Et donc, est-ce que, comme le pensent certains observateurs, cette décision du ministre est contre la révolution de la modernité?
Je ne voudrais pas aller dans des considérations politiques. Je voudrais simplement dire que nous sommes un pays qui fait tout au coup par coup. Nous n'avons pas de planification stratégique. Je vais vous dire une chose, le ciment est un produit de masse. Je ne connais pas un seul pays sérieux qui conditionne le ciment en sac de 50 kilos. Tous les pays du monde conditionnent le ciment en big bags. C'est 2 tonnes, 2,5 tonnes ou plus. Pourquoi? Parce que le ciment est un produit industriel. La seule raison pour laquelle dans notre pays le sac de ciment est à 50 kilos, c'est simplement parce que nous sommes des artisans. Tout, nous le faisons de manière tout à fait individuelle. Chacun construit sa maison. Je ne connais pas un seul pays sérieux où chacun construit sa maison. La conséquence est que même dans une ville comme Kinshasa, chacun construit sa maison, mais personne ne construit les infrastructures communes. Et on a des quartiers où on a des très belles maisons, mais on n'a pas d'infrastructures communes. Et du coup, nous créons le bonheur et sa destruction à la fois. À un moment donné ou à un autre, on doit savoir que le ciment emballé en sac est un produit pour artisans, les gens qui font de la débrouillardise, des petites réparations à la maison. Et dans le monde entier, le sac est passé de 50 kilos à 5 kilos pour des raisons d'ergonomie. Et donc, il faudrait qu'on résolve le problème de manière stratégique et de manière transversale.
Merci Al-Kitenge. Je signale en passant à nos auditeurs qu'ils ont adressé beaucoup de réactions au ministère de l'économie. Malheureusement, nous n'avons personne pour répondre à toutes ces préoccupations. Jean-Luc Bekama, et nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au Sud Kivu.
Le ministre pense-t-il que la rectification de son décret lui permettrait de réussir là où ses mesures d'encadrement, dont il s'est réjoui avec la main au cœur la fois dernière, ont pratiquement échoué à maintenir la stabilité des prix de ses produits sur l'étendue de la RDC, tout en le remerciant d'avoir évalué les résultats de la révolution de la modernité dans son domaine? Je me demande s'il ne trouve pas la nécessité de frapper son décret d'une simple annulation profitable à l'est qu'à l'ouest, s'il n'a pas encore compris que l'on ne consomme que lorsqu'on a produit et que sa mesure demeure inopportune sans que la RDC contrat plus sur l'importation de ses produits.
Jean-Luc Bécam, ma réaction.
Oh oui, mais je crois que c'est par rapport à ce que nous avons dit. Je voulais un peu revenir un tout petit peu en arrière par rapport à mon intervenant de tout à l'heure. Je crois que la décision pour nous qui sommes au niveau de la province du Congo central, la décision qui avait été prise à Lufu, c'était une situation qui avait des répercussions sécuritaires, dans la mesure où la frontière de Lufu, c'est une petite frontière dans un petit espace, et il y avait de la surchauffe. Et que le gouverneur, en tant qu'autorité locale, devait trouver des voies et moyens pour pouvoir baisser la tension. Ça, c'est en fait une parenthèse que je voudrais ouvrir. Et le gouverneur était accompagné de tout le comité provincial de sécurité, et je crois que la décision avait été prise en connaissance de cause. Mais je crois que par rapport à la question de notre ami de tout à l'heure, il y a eu une mauvaise... j'ai pas trop bien suivi, mais je crois que il est important aujourd'hui que les choses se fassent en tenant bien entendu compte des besoins de la République. Et lorsque le chef de l'État a parlé de la révolution de la modernité, c'est un élément important,
c'est un déclic. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la partie ouest, la partie est, si nous prenons les produits tels que les barres de fer, bon, quelle est l'industrie qui produit des barres de fer et tout par rapport à faire en produisant toutes les dimensions dont on peut en avoir besoin pour les différentes constructions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, en fait, c'est ce que nous disons. Pour moi, je suis convaincu que le ministre de l'économie prendra un troisième arrêté qui, bien entendu, à mon sens, nous amènerait dans le sens d'aller pour l'intérêt de tous.
Jean-Luc Bekama, Alkitenge, en citant un opérateur économique, a dit qu'il y aurait 5 ans de taxes. Vous avez parlé d'une fiscalité pesante. Est-ce que vous pouvez le confirmer?
Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est ça que nous avons toujours dit. Le gouvernement, notamment le ministère de l'économie, devrait s'asseoir, poser la question à notamment, si parce que nous parlons du secteur de l'industrie, poser la question, qu'est-ce que vous payez réellement? Tant au niveau annuel qu'au niveau mensuel. Ils se rendront compte qu'avec toute la bonne volonté du monde, il est difficile qu'on soit compétitif. C'est le cas, nous avons le cas, que ce soit pour le sucre, que ce soit pour le ciment que nous disons aujourd'hui. Nous avons des industries qui sont en construction. Ils vont avoir les mêmes problèmes. Mais la solution ne passe pas par l'interdiction ni par des contrats-programmes. La solution passe par une fiscalité qui tient compte de notre situation réelle. Et là, l'État permettra à notre industrie locale d'être compétitive.
Merci.
Vous savez qu'aujourd'hui, en matière de construction de la fabrication des ciments, il y a une certaine modernisation des méthodes. Tout ça, ce sont des éléments qui doivent être étudiés et dire, par exemple, à Silou, le modèle de fabrication, l'usine que vous utilisez aujourd'hui, c'est une usine peut-être vieille, et qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver des méthodes, étudier ce que font les autres et tenter, bien entendu, de ne pas priver la population d'un bien qui est considéré aujourd'hui comme vital.
Merci Jean-Luc Bekama. Et tout cela pour être compétitif. Israël Moutala, il y a pour vous également cette réaction qui nous vient de Bukavu Sud-Kivu.
Augustin Tenzilonde, je suis à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Je me demande si réellement cette première mesure prise par le ministre de l'économie avait été décidée dans le conseil des ministres ou elle avait été décidée unilatéralement par M. Bakiritebo. Car l'intervention du ministre de l'Intérieur pour ces centaines de camions à la frontière de l'Angola prouve à suffisance que le ministre devrait tout simplement renoncer à sa décision pour la bonne marche de notre économie.
Israël Moutala. Non, je pense que c'est une décision que le ministre a pris tout seul, parce que il a des prérogatives, donc il a pris un arrêté, il n'avait pas besoin de se concerter avec qui que ce soit. C'était pas une mesure, c'était pas des prérogatives transversales pour qu'il consulte, mais il pouvait aussi consulter, mais je pense que ça c'était dans ses prérogatives, mais sauf que ce n'est pas une bonne décision, elle n'avait pas été mûrement réfléchie. Et si le ministre de l'Intérieur est intervenu, c'est pour des raisons d'ordre sécuritaire, effectivement. Écoutez, ce n'est pas par un décret ou un arrêté que on peut bouleverser aussi facilement les équilibres commerciaux et économiques des gens. Il y a des agents économiques qui ont passé des commandes. C'est de l'argent. Ils ont fait des investissements, ils ont acheté, ils ont des camions qu'ils ont loués, ils ont des frais à payer et tout ça. Tu peux pas par un décret te révéler du jour au lendemain et interdire l'importation. Donc c'est
alors Israël,
c'est compliqué.
Israël Moutala, est-ce qu'on peut dire que cette mesure est bonne, mais que la procédure est mauvaise?
Non, la mesure n'est pas bonne. Même nous ne sommes pas ici justement pour faire l'apologie de l'importation. Non. L'importation est une nécessité. Parce qu'il y a un manque justement de production de ciment de manière qualitative et quantitative. Ça veut dire
sur le plan local.
Sur le plan local, l'offre n'est pas suffisante. Voilà pourquoi est-ce que nous recourons aux importations. Mais recourir aux importations veut dire aussi justement que nous sacrifions certains emplois, certaines opportunités localement. Mais c'est une mesure temporaire. Mais faites en sorte que la production locale soit aussi compétitive que la production extérieure. Comme ça, on va refermer les frontières. Mais pour l'instant, d'ailleurs, nous sommes dans une époque où justement on prône la liberté de circulation des produits, de biens, de services et des personnes. Et donc il faudrait être
excessivement compétitif. Ça veut dire qu'il faudra absolument aujourd'hui, si le ciment de l'Angola nous arrive à 2 dollars à Loufo, il faudrait que nous ici, nous produisions le ciment au coût d'un dollar, localement. Localement.
Et au moins.
Au moins. Non, localement. Il faut que le ciment qui va nous produire les industriels locaux ici, parce qu'il y a deux grandes cimenteries qui vont entrer en production cette année, il faut que le gouvernement réfléchisse comment on fait en sorte que notre ciment soit aussi compétitif que le ciment de l'Angola. Voilà la question stratégique à laquelle, justement, le gouvernement doit réfléchir pour faire en sorte que le ciment soit accessible. Mais il y a une autre réflexion que Al a avancée qui est pertinente, justement. C'est la problématique des agences immobilières. On construit nos quartiers comment? Il faudra absolument des agences immobilières. On a vu Rimokine, qui a été un rétentissant fiasco. Il faudra absolument que les gens rendent des comptes un jour. Mais il faudra absolument qu'il y ait une réflexion par rapport à ça, qu'il y ait des agences immobilières avec peut-être une banque de l'habitat qui appuie ces agences immobilières pour que les gens qui ont des salaires de 500 ou même moins puissent avoir une visibilité pour accéder à l'habitat. Parce que nous sommes dans une culture du cash, c'est compliqué. On ne peut pas bâtir de modèle économique viable avec ça.
Mais tout ça, comme a dit Al Kitenge, ça passe par la mise en place d'un plan national stratégique.
Tout à fait, c'est de la réflexion. Ce ne sont pas des petites mesurettes que prend Bahati dans son bureau. Non, voilà. Et voilà, on lui a tapé dessus. Et donc, ça, il a frôlé le meute. Vous avez 120 camions là-bas. Vous imaginez
500, plus de 600 d'ailleurs.
Plus de 600 camions. Non, ce mec, il y avait des problèmes de congestionnement. Il devait se poser cette question, que si je prends telle mesure, quelles seraient les retombées? Mais bon, enfin, c'est une mesure qui n'a pas été bien réfléchie. Et donc, c'est de l'argent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous voulons que nos gouvernements soient très bons en termes de prospective. Qu'ils élaborent des politiques intelligentes et audacieuses, qu'ils puissent travailler justement sur la réduction des taxes, des coûts. Et c'est la théorie justement de ce que j'appelle l'optimisation fiscale, qu'il faut opposer à la maximisation fiscale. À vouloir totalement prélever, on peut tuer des industries, on peut tuer toute une économie. Il y a moyen de prélever l'argent dans l'économie de manière intelligente.
Merci Israël Moutala. Al Kitenge, il y a pour vous cette réflexion.
Sikiri Chomba depuis Goma dans la province de Nord-Kivu. Je me demande pourquoi est-ce que le ministre de l'économie persiste dans cette mesure pendant que le prix sur le marché est en train d'augmenter et n'épargne aucun coin de la République. À mon avis, cette mesure a été prise à la hâte sans une étude au préalable qui devait tenir compte de la loi de l'offre et de la demande. Le gouvernement pensait protéger les intérêts du peuple, mais au finish, c'est contre le peuple malheureusement. Tout ce qu'on fait pour le peuple sans tenir compte de la réalité que vit le peuple au quotidien est contre le peuple. Je pense qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Le gouvernement doit revenir sur cette mesure sur l'ensemble du pays car les conséquences sont ressenties partout au pays, à l'est comme à l'ouest.
Al Kitenge.
J'aime bien entendre ce que les Congolais disent à très haute voix. Des fois, ils le disent de très bonne foi sans réellement savoir ce qu'ils ne disent pas. Ces messieurs disent que ces mesures touchent l'Est comme l'Ouest. Mais justement, le ventre mou, c'est le centre. Je vous disais tout à l'heure que dans le Kassai, dans l'ancien Kassai, le ciment est à 50 dollars. Depuis qu'on a commencé l'émission, personne n'en parle. Ces mesures ne les touchent même pas. Ces gens ne sont pas gérés par les mesures qui sont prises ici et on se rend bien compte de la limite géographique des décisions que l'on prend. Un pays, c'est la communication interprovinciale et l'existence en tant qu'entité avant de pouvoir résister au reste.
C'est un tout.
Je ferme cette parenthèse. Je voudrais rappeler, chiffre à l'appui, que nous sommes passés là de 9800 le sac de ciment à Kinshasa à 15000 et on revient à 12500. Ça veut dire une augmentation de 27%. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le centre, ça ne changera pas. Dans le sud et éventuellement à l'est, je parlais de la périphérie du pays, il y aura un effet d'essoufflement. Et je voudrais vous dire que cette décision aura eu des effets négatifs sur le prix. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Après, il faudra gérer. Mais je mets encore ça de côté. Je voudrais dire une chose. Lorsque vous prenez un programme national, vous devez le disséquer, être en mesure de dire de quoi nous aurons besoin. Lorsque vous dites qu'on va faire un programme de révolution de la modernité ou les cinq chantiers, vous devez savoir de quelles industries vous avez besoin, en quelle quantité et pour quelle production. Vous savez, nous avons été dépassés par les besoins de construction en logement décent par la simple arrivée de la MONUC à l'époque. Et ça a donné l'euphorie que nous vivons jusqu'aujourd'hui
heureusement d'ailleurs. Mais nous n'avons pas réussi à capitaliser cela et en faire un programme cohérent. C'est là-bas qu'une institution comme le FPI devait jouer, le Fonds de Promotion de l'Industrie. Pourquoi ? Parce qu'il aurait pu être en mesure de donner de la compensation en matière de substitution des produits importés. Et ça, nous parlons simplement du ciment, mais c'est valable avec le reste. C'est valable avec les produits pétroliers, c'est valable avec d'autres produits stratégiques qui ont un impact réel sur la vie des citoyens. Je pense qu'il est important qu'on se souvienne d'un certain nombre de choses. Vous savez, le prix du transport d'un sac de ciment de la Chine jusqu'ici est 4 fois inférieur au prix du transport entre le Congo central et Kinshasa. Pourquoi ? Parce que, bêtement, nous transportons le ciment qui est un produit à faible valeur ajoutée sur la route alors qu'il devrait aller sur le rail. Et c'est toutes ces choses que l'on peut être en mesure de mettre ensemble pour être en mesure d'optimiser le coût et la structure de prix, pour être en mesure de donner finalement le produit à valeur ajoutée qui se trouve être l'habitat décent, assaini aux citoyens congolais et leur donner une qualité de vie.
Et donc en ce moment, si je comprends Al Kitenge, la seule solution c'est supprimer cette mesure.
Cette mesure vise officiellement à stopper la fraude aux frontières de l'Angola. Il faut résoudre le vrai problème. Mettre tout le monde à égalité. Ça veut dire qu'en fait, les produits qui viennent de l'Angola, qu'ils payent effectivement tout ce qu'ils doivent payer, et c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est le problème que l'on dit qu'on voudrait résoudre, mais il faut le résoudre. Après, si ce produit est toujours moins cher que les produits qui sont à l'intérieur, il y a un problème. Il faut donc agir sur les produits qui sont produits sur le territoire congolais et regarder pourquoi ils sont plus chers. Est-ce un problème de compétitivité en termes d'organisation et en termes d'exploitation, ou est-ce un problème de charge fiscale excédentaire? Quand on aura fait le nettoyage, on pourra avoir des solutions sur le long terme. Entre-temps, je pense que le gouvernement doit absolument retrouver sa cohérence. J'ai entendu l'explication de notre confrère qui est au bout de la ligne, mais encore une fois, moi j'ai honte. Il n'y a rien qui peut expliquer que le gouvernement parle de 2 voix discordantes, et surtout sur la place publique.
Alors Jean-Luc Bekama, pour vous, quelle devrait être finalement la meilleure solution?
Bon, en fait, pour moi, je crois que je voudrais un peu abonder dans le sens de ce que mon collaborateur a dit tout à l'heure. Les problèmes doivent être distingués. Si on veut protéger l'économie, l'industrie locale, il y a des voies pour le faire. Lorsqu'il y a des entrées ou des importations qui ne cadrent pas avec ce que l'on veut sur le plan intérieur, il faut prendre des mesures. Donc, essayer de faire ce mélange entre les importations qui entrent en prenant des mesures qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt et de la sauvegarde de l'économie de notre pays, moi je crois que cela n'est pas bon. Et surtout, il n'est pas aussi bon qu'au sommet de l'État qu'on prenne des arrêtés qui divisent la nation pour dire que cet arrêté, nous la prenons pour la partie ouest et ça, c'est pour la partie est. Tout ça, c'est de la cacophonie et c'est pas bon. Je crois que avant de prendre des mesures dont on sait qu'il va que ces mesures-là auront un impact, soit négatif, notamment pour les cas d'espèce, il faudrait faire des consultations avec les professionnels. Et ces consultations doivent être faites en ayant un esprit tout à fait apaisé, en faisant de bonnes études, et que ces mesures-là servent réellement à quelque chose. Il ne faudrait pas avoir de prendre des mesures qui finalement vont être des mesures mort-nées ou qui vont finalement dérégler tout le système que nous avons déjà avec la situation économique internationale et aussi nationale que nous connaissons aujourd'hui.
Merci Jean-Luc Bekama. Israël Moutala, cette émission est également pédagogique. Vous avez insisté sur l'optimisation fiscale. En quoi elle pourrait être bénéfique?
L'optimisation fiscale, c'est l'État ne doit pas considérer que avoir taxé pour renflouer ses caisses à tout prix au détriment justement de la viabilité d'une entité économique. Voilà, et donc il doit faire le choix à un moment de diminuer la pression fiscale sur un secteur, sur un produit, pour permettre la viabilité du domaine, du secteur et de l'industrie. Mais ici, nous avons une vision court-termiste qui veut qu'on veut des sous dans la caisse de l'État tout de suite. On peut renoncer justement à certaines taxes aujourd'hui pour permettre à des industries de grandir et d'être fortes demain, et demain ils vont payer plus d'impôts. C'est une stratégie, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Mais ici, nous sommes aveuglés par la maximisation fiscale, qui est un concept dépassé.
Alors, Al Kitenge a évoqué le problème du centre du pays où le sac de ciment est à 50 dollars. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette partie du pays puisse également souffler quand même?
Mais justement, il faudra absolument faire en sorte que le prix du ciment soit compétitif, soit accessible. Il faudra absolument construire des infrastructures routières, notamment la connexion. Mais le rail, c'est le meilleur, c'est la meilleure infrastructure qu'on puisse doter ce pays. Donc le jour où on aura un chemin de fer qui va quitter le sud du Katanga, qui va passer par le Deux Kassai, et on jette un pont sur lequel il va traverser le Bandundu et arriver ici à Kinshasa, ça sera merveilleux. On aura une épine dorsale qui va boucler un peu la boucle de toute la production, qui va ramasser toute la production. C'est l'avenir. Mais remarquez même que pour les investissements en matière d'infrastructure, les Chinois, les Japonais ou même les Belges et tout ça, pour les infrastructures qu'ils construisent ici, ils importent du ciment. Ils ne veulent même pas l'acheter sur le marché local, parce que sur le marché local, il coûte plus cher. Donc, ça veut dire que quand vous avez un don d'une route, par exemple, de 120 millions de dollars, c'est un don de la Chine ou de l'Union européenne, on ne l'achète pas à la silo, même si la silo était en capacité de fournir le ciment lui demandé. On préfère l'importer, et ça va entrer justement ici en exonération pour financer les infrastructures. Mais si on avait du ciment ici sur place, ça serait formidable en quantité pour notre industrie.
Et en termes de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez recommander au ministre de l'économie?
En termes, donc, une de ses missions à lui, c'est de faire des politiques publiques de production, d'évaluer d'abord les besoins. Est-ce qu'on a des statistiques secteur par secteur pour évaluer nos besoins et d'élaborer des politiques publiques justement dans ce secteur-là? Mais je sais qu'il y a des politiques publiques aujourd'hui, c'est accroître l'offre. On va accroître l'offre avec deux cimenteries d'une capacité de 1 million de tonnes d'ici la fin de cette année, ou plus tard l'année prochaine. Je crois c'est Nyumba Akiba et PPC Barnett, voilà, il y a deux grandes cimenteries de ce côté.
Merci.
Mais de l'autre côté, là-bas, j'ai pas encore vu de grands projets. Le seul projet qu'a financé, qu'a pris le FPI dont a parlé Al ici, c'est une petite cimenterie de 25 à 30 000 sacs par mois, je crois.
Al Kitenge, comment faudrait-il entrevoir la suite du climat économique de la RDC?
Je pense qu'il y a un véritable besoin pour le gouvernement de retrouver sa cohérence, de s'expliquer vis-à-vis des Congolais, de leur dire exactement qu'est-ce qu'ils veulent réaliser. Et la deuxième des choses, c'est la concertation. Il est important de toujours poser la question aux parties prenantes avant de prendre des décisions extrêmement structurantes. Aujourd'hui, la seule chose qui gêne les Congolais, c'est de se rendre compte qu'il y a une croissance inexplicable et intolérable de prix au niveau de l'acquisition, et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et la troisième des choses, c'est que on se rend compte qu'on a plusieurs pays dans le même pays. On a des prix de l'Est, on a des prix de l'Ouest, on a des prix du Sud, et on a des prix du Centre. À un moment donné ou à un autre, on est un pays où on est un ensemble des morceaux de territoire. Et je pense que si on voudrait être un pays, et être un pays est un avantage majeur, il est important qu'on se donne une certaine cohérence au niveau de la gestion.
Alors, le ministre Bahati a annoncé que des dispositions seraient prises à travers la brigade économique pour sanctionner sévèrement tous ceux qui se permettent d'augmenter les prix de manière exagérée. Un commentaire.
Non, je pense que en professeur d'économie, le professeur Bahati sait très bien que nous aurons exactement les mêmes effets que nous avons sur la monnaie. Il y a un taux de l'État, il y a un taux de la rue. Ce sera la même chose avec les produits. Ni sa brigade, ni qui que ce soit ne pourra contenir les lois du marché.
Jean-Luc Bekama, votre conclusion.
Oh, je crois que ma conclusion elle est simple. Elle est simple dans le sens que, notamment au niveau du ministère de l'économie, le ministère doit savoir que des mesures importantes, on ne peut pas les prendre à la hâte. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la brigade viendra contrôler quel prix. Parce qu'en fait, nous étions à un prix et le prix a changé. Et même les communiqués qui a sanctionné la rencontre d'hier a fixé un prix de ciment qui est en principe à la hausse par rapport au prix qui était pratiqué.
Merci.
Donc je crois que s'il y a des résolutions importantes qu'on veut les prendre.
Merci Jean-Luc Bekama, elles doivent être prises en concertation. Cette émission est terminée. Merci monsieur d'y avoir participé. Bon, c'était le programme sur la radio de la paix. Au revoir.